Vous êtes française ou français et vous résidez à l'étranger? Les élections européennes arrivent à grands pas. Rendez-vous le dimanche 9 juin pour élire les représentants français au Parlement européen. Ou le samedi 8 juin si vous résidez sur le continent américain ou dans les Caraïbes. Bon vote!
Vous êtes ici?
Oui.
C'est Côté Club, bienvenue à toutes et à tous. Côté Club au studio 611 ce soir de la Maison de la Radio et de la Musique. C'est quand même le rendez-vous de toute la scène française et plus ses affinités, du lundi au vendredi 22h-23h, avec ce soir 4 invités en direct. Eric Greff alias Helmut Fritz, son double maléfique. Bonsoir à vous deux.
Bonsoir.
À vos côtés, Will et Paul du duo Pirogue. Bonsoir.
Bonsoir Laurent.
Bonsoir Laurent.
Rockstar sinon rien, un titre qui raconte votre parcours montagne russe, Eric Greff, en Helmut Fritz avec le tube interplanétaire Ça m'énerve, 500 000 d'exemplaires vendus, l'addiction au succès, la chute et un portrait décapant de l'industrie du disque, le tout emporté par un style hilarant, un sens de la caricature, du détail qui tue, ce qui a fait le succès de Ça m'énerve. À vos côtés, Pirogue, nouveau duo de pop planante, nourrie de Sébastien Tellier, R, Laurent Voulzy en référence assumée. C'est le premier EP, 6 titres, comme autant d'invitations au départ, au voyage, avec rêves psychédéliques. Une avant-première ce soir pour une sortie le 15 avril prochain. Et enfin, un zoom sur le festival Les Émancipés, avec Yoa, PR2B, Clara Isé, Laura Cahen, au micro de Marion Guilbeault. Côté Club, c'est ouvert entre vos oreilles.
Côté Club, Laurent Goumard, sur France Inter.
Et c'est Fishback qui ouvre ce soir avec une des rares chansons qu'elle n'est pas composée elle-même. De l'instinct, c'est signé Casual Melancholia. Direction artistique, structure, interprétation, arrangement. Fishback sur France Inter. Éric Greff, Will et Paul de Pirogue, deux univers, deux parcours très différents. Je ne pense pas que vous vous soyez déjà rencontrés.
C'est la première fois.
Première fois.
C'est la première fois.
Et je suis très heureux de découvrir le travail de ces garçons.
En revanche, je pense, Will et Paul, que vous avez déjà entendu parler d'Éric Greff, ou plutôt de son avatar, Helmut Fritz. Ça vous dit quelque chose, j'imagine?
Oui,
tout
oui,
à fait.
Oui.
En 2009, vous ne pouviez pas passer. Vous étiez déjà né, excusez-moi de vous le dire.
Oui.
Et vous ne pouviez pas passer à côté.
Impossible, oui.
Vous avez tourné partout, en Russie, dans le monde entier, au Québec, en Europe. Combien de concerts vous avez pu enchaîner?
Je dirais environ 150.
Ouais. C'est énorme.
C'est énorme, c'est énorme. Ça m'a galvanisé, ça m'a fatigué aussi.
Vous avez été proche du burn-out quand même à un moment donné?
Même en plein dedans.
En plein dedans?
Oui, ouais, bien sûr. Bien sûr, à un moment donné, je suis... Surtout après les deux premières années qui ont suivi le succès du single, je...
Donc 2009-2010.
2009-2010, ouais. J'ai été dans une spirale incroyable et je suis sorti de là en me disant mais qu'est-ce qui m'est arrivé? Il y a eu un rythme tellement effréné que je ne peux que constater aujourd'hui mon épuisement psychique et physique. Et malgré toutes les émotions positives que j'ai eues, je me suis senti vraiment sur les genoux. Ouais.
Vous étiez aidé quand même psychologiquement à l'époque?
Pas du tout.
Pas du tout. Et après?
Pas du tout. Et après, oui, après je me suis aidé. Enfin, je me suis fait aider par des gens qui ont l'habitude de traiter les santé mentales, parce qu'il fallait que j'aie un recul, alors que j'étais pas capable de l'avoir moi-même philosophiquement. Il fallait que j'aie un recul médical sur tout ce qui se passait et que je me fasse un petit peu aider. Ouais.
D'autant plus que vous vous dédoubliez, puisque on l'entend aujourd'hui, vous n'aviez pas du tout donc cet accent à la Karl Lagerfeld.
Non, pas du tout.
Voilà, c'est ça. Donc et en plus vous deviez jouer le jeu pendant les entretiens, vous ne deviez pas sortir du personnage.
Oui, c'était le cahier des charges avec la maison de disques, absolument. Je devais jouer mon rôle pendant en télé. J'étais d'ailleurs devenu un assez bon client télé.
Vous aviez le sens de la répartie, c'était parfait.
Merci. Et en tout cas, du coup, le leitmotiv, c'était de ne pas sortir du personnage, et c'est ce que j'ai essayé de faire. Et au bout d'un moment, ça devient assez fou et on devient schizo, quoi.
Pirogue, c'est le premier EP, c'est une avant-première, sortie prévue donc pour le 15 avril, deux titres déjà disponibles, dont celui-ci, Extase. Le titre est déjà disponible, le clip aussi, inspiration pop planante, dream pop. Vous avez eu ce son depuis le début, depuis vos tout débuts, avant même ce duo Pirogue.
Paul, de ma part, en fait, moi je viens plutôt du jazz et de la musique improvisée, etc. Et donc je me suis mis un peu tardivement dans ce style de musique. En fait, je jouais avec des pédales, des faits à la guitare, etc. Parce que le jazz est super sec, on va dire. Donc voilà, mais c'est un peu William qui m'a poussé à faire ces genres d'arrangements, en fait. Voilà.
Alors que moi, ouais, j'ai toujours eu cette petite dimension un petit peu tripante, planante. Enfin, ça fait partie des choses que je joue de manière très naturelle depuis toujours.
On va revenir sur ce parcours dans quelques instants, mais d'abord, retour sur le vôtre. Hors norme, Éric Greff, les hauts et les bas d'une rockstar sinon rien qui explose en 2009 avec un titre drôlement bien fichu, un personnage burlesque qui va même se retrouver nommé aux victoires de la musique catégorie meilleure chanson originale de l'année.
Comment ça va ce soir? J'ai un cadeau à faire de chez Zadig et Voltaire. Le pull où c'est marqué rock, mais y'a la rupture de stock. Toutes celles qui portent la frange à la crête mosse, bonsoir une fois de plus.
Je suis passé juste après l'hommage à Michael Jackson. Et pour faire ça m'énerve, version spéciale avec 32 musiciens et les cordes de l'Opéra de Paris. Et j'attends quand même avec impatience et dextérité les résultats. Est-ce que je l'ai ou pas?
Vous l'avez eu?
Je l'ai pas eu, mais quel cadeau vous me faites.
C'est Cœur de Pirate qu'il a eu.
C'est Cœur de Pirate, c'est Béatrice qui l'a eu, ouais. Elle le méritait aussi.
Moi, si j'avais été votre label, je vous aurais viré. Vous savez pourquoi? Parce que là, quand on vous entend, vous n'aviez presque pas l'accent. pour cet entretien.
Si, quand même, mais
un
contre,
tout petit peu.
Ouais, on sent que je suis pas sobre non plus. Ouais.
Vous étiez monté sur scène complètement bourré ou quoi?
Pas complètement bourré, mais toujours un peu chargé. C'était devenu un peu, pardon, hein, parce que je sais qu'on est en radio, qu'on est à une heure d'écoute et qu'il faut.
Enfin, ça va, il est 22h13 sur France Inter, vous pouvez y aller.
Mais Helmut est très rarement monté sur scène en étant sobre, parce que ça faisait partie du personnage, le côté désinhibé, le côté justement rockstar et ouais, d'être un petit peu avec quelques grammes, quoi. Voilà. D'alcool, bien sûr.
Donc c'est Cœur de Pirate qui a remporté le trophée. On se console tout de suite avec...
C'est un scandale !
On se console tout de suite avec ce titre, ça m'énerve. Version originale, mais dédoublée avec la version Covidée de 2020 sur France Inter.
Toutes celles qui portent la frange à la quête Moss, ça m'énerve.
Ça m'énerve. J'entre au coste boire un verre, mais la serveuse me pompe l'air. J'ai pas la réservation, je ressors, j'ai l'air d'un con. Ça m'énerve. Oui, ça m'énerve. J'ai un cadeau à faire de chez Zadig et Voltaire. Le pull où c'est marqué rock, mais y'a la rupture de stock. Bichat la folie, ils prennent que les VIP. Moi j'arrive sur mon brancard, on me dit non tu repars. Ça m'énerve, ça m'énerve, ça m'énerve. J'appelle Amazon, une blondasse au téléphone me dit
je peux vous aider?
J'ai plus de PQ vous livrer. Elle m'énerve. Mon Dieu qu'elle m'énerve. J'ai vu une chauve-souris milliardaire. J'ai dit Batman, vous foutez tout en l'air. Puis j'ai croisé Macron dans les vestiaires. Il m'a dit Helmut rentre chez toi, ah, c'est la guerre. Toutes celles qui ont chopé le cul de Kardashian, qui peuvent plus s'asseoir, arrêter le parmesan. Champagne rosé, pour oublier le confinement qui va durer. Ça m'énerve tous ces gens qui font la queue devant le Franprix. Tout ça pour des panzanis. Mais bon, en 5 minutes c'est cuit.
Ça m'énerve. Le rouge à lèvres, c'est fini, pas le temps, y'a les gosses. Toutes celles comme toi qui s'inquiètent pour une nouvelle ride. Relativiser, c'est quand même moins grave que le Covid.
Ça m'énerve.
Ça m'énerve, le tube électro d'Helmut Fritz. Électro, alors que vous n'étiez pas du tout électro dans la vraie vie.
Non, mais pas du tout.
Mais ça, pas du tout.
Je vais faire une croix sur mon calendrier. C'est probablement la seule fois que France Inter passera les deux versions de Ça
en
m'énerve.
En une seule fois.
Exactement. En une seule fois, c'est exceptionnel.
Un demi-million de singles vendus à l'époque. Ouais. Sony en vendait au début 10 000 par jour en 2009.
C'est fou.
Vous avez acheté votre appartement, une maison de vacances, ou vous avez pété les plombs?
Non, alors ni l'un ni l'autre, parce que j'ai fait attention. J'ai fait attention parce que je savais qu'après cette cette belle ascension, il y allait y avoir une chute falaisienne, j'invente ce terme, ce soir, en face de vous.
Mais je vois bien l'image.
Vous voyez?
Oui.
Donc, non, pas du tout, mais j'ai effectivement tout a changé dans ma vie à partir du moment où ça a frappé extrêmement fort auprès du public, dans les radios, etc. Ça a été un changement de vie très soudain, très brutal, et j'ai eu la chance à ce moment-là, j'avais la chance à ce moment-là d'être très bien entouré et de me dire qu'il fallait quand même être un petit peu prudent.
Surtout pour un titre donc canular, porté par un personnage grotesque que vous aviez construit, Eric Greff, ouais. En regardant Karl Lagerfeld à la télévision.
Tout à
lui-même
fait.
Complètement construit,
oui,
fabriqué.
Oui, ouais, tout à fait. Je faisais de la pop en fait, qui marchait pas du tout depuis 3 ans. J'avais quitté un boulot académique pour essayer d'aller dans la musique où je n'avais aucun contact, aucun interlocuteur et je ne savais pas à qui m'adresser. Et ma pop à l'époque, qui ressemblait à quelque chose entre Calogero et Vianney, on va dire, ne fonctionnait pas. Et je me suis dit à un moment donné, je veux absolument exister en tant que chanteur dans ce métier. Il faut qu'on mette un regard sur mon travail, donc je vais ruser. Et je ruse en voyant un soir un reportage sur Karl Lagerfeld qui effectivement a complètement façonné son personnage au-delà du grand génie de la mode qu'il était. Il s'est construit visuellement, il a fait de sa vie un théâtre. Il s'est mis à distance des gens avec ses lunettes de soleil, il s'est mis ses costumes extrêmement bien coupés, ses cheveux blancs. Enfin, on l'a jamais vu sur une plage paparazzi, hein. On l'a toujours vu que comme ça. Donc c'était incroyable.
Pour moi, même réinventer sa vie.
C'est ça. Pour moi, c'était un personnage de Marvel, mais dans la vraie vie, en fait. Et je l'ai trouvé tellement fascinant que je me suis dit à ce moment-là, si je prends l'ADN de ce personnage et que j'en fais un ersatz en couleur dans la musique, je suis sûr que ça va rendre fou les gens. Et c'est ce qui s'est passé.
Succès énorme. Alors, retour en arrière, car sous Helmut Fritz, il y a vous, Eric Greff. Vous ouvrez le livre Automne 2005. À l'époque, vous avez 2005, ouais, vous avez 30 ans, pas du tout dans la musique, mais chez BMW, dans l'équipe des ventes spéciales. Vous avez fait une école de commerce internationale. Quelle place avait la musique à ce moment-là dans votre vie? Donc, cette période pop.
Ouais, elle était un peu en sommeil, parce que c'était avant de commencer à travailler, quand j'étais tour à tour lycéen et ensuite en école de commerce, que j'avais des groupes et que je faisais des petits concerts régionaux, que j'essayais d'avancer avec mes propres pop songs. Et à partir du moment où j'ai commencé à travailler et où j'ai réussi à assumer ma vie financièrement, alors que je suis originaire de Moselle-Est, j'étais à Paris et je me disais c'est génial, ça y est, je peux subvenir à mes besoins, je peux sortir, je peux aller au théâtre, je peux faire plein de trucs. Et je me suis oublié en fait artistiquement pendant à peu près 5 ans, jusqu'à étouffer dans cette vie-là et à me dire non, c'est stop, il faut que tu fasses autre chose de ta vie.
Automne 2005, donc vous participez à une convention avec toute l'équipe des ventes spéciales. Il est 22h ce soir-là à Munich, je lis. Tout le monde est là. Ma boss, Jeanne Legros, blonde quadra abîmée par la vie, en lutte méritante dans ce monde de mecs lourdeaux. Son patron, Gonzague Petit, qui n'avale que de la salade et du fromage tous les jours que Dieu fait à la cantine. Le directeur des ventes, François Simonet, un homme à la simplicité bourrue. Et enfin, Arthur Hans, le chef exécutive Ophéiser, croisement esthético-hybride entre un politicard et un curé, cheveux blancs et costards, toujours gris comme son teint, le genre a impressionné le stagiaire de première année alors qu'il m'évoque absolument tout ce que je ne veux pas devenir. C'est mon 6e verre et je craque, je monte sur la scène et sous les yeux médusés de mes collègues, je fais signe au chanteur de me passer le micro et là, vous allez tout donner sur ça. Life running through my veins, going to waste. Là, vous donnez tout, c'est l'explosion en plein vol.
Là, je me prends pour Robbie Williams, j'en peux plus. C'est mon idole à ce moment-là, je l'ai vu 1000 fois. Ce concert de Robbie à Nebworth, et puis je suis allé le voir des dizaines de fois sur scène, et je me dis c'est maintenant, je suis bourré hein, à ce moment-là quand même, hein, mais c'est pas grave, c'est pas le plus important, je monte sur scène et je signe mon arrêt de mort dans cette société, en signifiant finalement à travers le fait de chanter cette chanson devant tout le board de BMW qu'une autre vie m'attend quelque part et que j'en suis persuadé.
Et là c'est l'explosion en plein vol, donc vous décidez de vous lancer dans la musique sans connaître absolument personne. Ça donne au départ un CD vendu à 30 exemplaires avec un producteur complètement dingue qui vous reproche de ne pas vous droguer.
Tout à fait.
Un concert au Sentier des Halles,
oui.
Plein quand même, où là vous comprenez que véritablement votre place est sur la scène. Quel répertoire vous aviez au Sentier des Halles à ce moment-là?
Le mien, le modeste mien, c'est-à-dire des pop songs composées depuis quelques mois. Et puis quelques reprises Britpop de mes mes idoles, les Stereophonics, les Feeder, Radiohead. Mais quand j'y repense aujourd'hui, il y avait une inconscience totale et je pensais que j'étais flamboyant alors que j'étais extrêmement balbutiant, quoi.
Bon, ça n'a pas marché. Vous avez enchaîné des petits boulots de galère. Transporteur de menhirs pour le parc Astérix.
J'ai fait ça.
Vous faites arrêter par les flics qui vous demandent vous transportez quoi ? Des menhirs. Bon, on embarque.
Ils pensent que je suis drogué, voilà. Ils ouvrent la camionnette et ils voient qu'effectivement, c'est les menhirs en plâtre fabriqués dans un atelier de décor de cinéma à Bagnolet. Et ils rigolent avec nous, finalement.
Le pire arrive quand même quand vous recroisez vos anciens collègues alors que vous êtes chauffeur au salon de l'automobile, porte de Versailles. L'humiliation est totale. Donc là, vous vous dites, ça y est, ma vie est fichue. Il va falloir qu'il se passe quelque chose. Puis donc, c'est la vision la guerre faite, la blague de la dernière chance, bref, ouais. La naissance d'Helmut Fritz. Sony va vous signer, ouais. Les radios jouent le jeu, ça a pris tout de suite où il y a quand même eu des résistances au départ.
Il y en a eu quelques-unes, c'est-à-dire qu'au départ, finalement, quand ça arrive sur les bureaux des programmateurs, déjà on se dit... C'est quoi cette blague? C'est hors ligne éditoriale.
Au mieux. C'est quoi cette merde?
C'est quoi cette merde? Il y a eu pire que ça, parce qu'au départ il y a eu une hésitation d'énergie qui a été ça a été la première radio à leur entrée et vu la puissance des fréquences ça a très vite fait monter la sauce. Mais il y a eu une autre histoire incroyable avec Fun Radio qui à l'époque dans l'équipe de programmation l'un des membres dit on peut pas jouer ça. Le mec dit à Hitler dans la chanson quoi. Alors que et donc on m'appelle pour me raconter ça et en fait il s'avère que dans le morceau à un moment donné je dis Scheiße qui veut dire merde en allemand et avec un écho un delay dans la prod ça dit Scheiße Heise 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 et le mec dans Heise il s'est mis à entendre à Hitler. Je sais pas comment il a fait. Et donc j'en ris aujourd'hui, mais à l'époque, j'étais extrêmement choqué.
Et puis surtout, ça aurait pu virer au cauchemar.
Ça aurait pu virer au cauchemar. Sauf qu'on est allé lui faire écouter les acapella, donc, sans la musique, pour prouver que dans l'écho, il y avait rien d'autre que l'écho. Et finalement, Fun Radio a décidé quand même de jouer le titre à partir du moment où on était heureusement déjà numéro un, et voilà.
Comment vous regardiez la situation à ce moment-là, parce que vous n'étiez pas encore intoxiqué par Helmut Fritz. Le succès est arrivé après, mais là, pour l'instant, juste, ça se met en place.
Je me rendais pas compte parce qu'en fait il y avait tout en même temps, c'est-à-dire que comme vous le disiez tout à l'heure, j'ai fait plein de petits boulots pas terribles, très très mal payés, où j'avais déjà d'une part mis mon ego de cadre dans la poche en me disant ok t'as choisi une nouvelle vie maintenant assume. Et quand ça arrive, tout arrive en même temps, c'est-à-dire qu'il y a la notoriété, très rapidement je suis en radio. Il y a une espèce de spirale qui s'installe où je suis accueilli dans des émissions que j'aurais jamais rêvé faire, que mes parents regardaient, enfin voilà. Je commence à faire des clubs extrêmement bien payés, donc tout change et je me dis sur le coup, putain c'est génial, t'y es arrivé. Et au lieu d'avoir la lucidité et la jugeote de penser à l'après, je me mets à croire dans un espèce de rêve à la DreamWorks que ça va durer toujours.
Mais quand les gens vous disent « vous êtes génial, vous devriez avoir la Légion d'honneur », ça vous met pas la puce à l'oreille ?
Ça m'a fait rire. Non, non, parce que le soir où on me dit ça, c'est c'est quand même l'ancien CEO de Jean-Paul Gaultier à une soirée avec Kate Moss où je fais tout pour la rencontrer. Ouais. Non, je me dis juste voilà quelqu'un qui sait pas ce qu'il dit quoi. Il a bu un coup de trop.
D'accord. Donc vous aviez quand même des sursauts de lucidité.
Bien sûr, évidemment. Mais quand même, j'aimais bien me laisser aller et me sentir tiré vers le haut par toute cette histoire.
Alors le livre, donc c'est l'histoire d'un type qui va s'accrocher au succès tout en ayant envie de tout arrêter parfois pour délivrer sa propre musique. Mais l'industrie du disque est beaucoup plus forte, un single qui marche et hop, on fait un album. L'album s'appelle Décalage.
Le décalage immédiat, le deuxième, ouais, tout à fait.
Avec des perles dedans, des duos formidables comme celui-ci.
Pardon monsieur, essuyez-vous les pieds comme ça, j'aurai pas à repasser la prochaine fois. Merci beaucoup, à demain soir.
Philippe. Ja, Mutti, ich komme.
On embrasse très fort Philippe Catherine.
Philippe Catherine qui s'était prêté au jeu.
Et comment? Quelle rencontre?
Oui.
Quelle rencontre. Et il est en ce moment au bon marché pour, je dis ça pour
je
les
sais.
Parisiens.
C'est, on est venu, ça, il ça est venu en parler ici.
Ça, voilà, ouais. Pour le mignonisme. Et vous savez qu'au moment où on fait ce duo, je ne connais pas suffisamment l'homme pour savoir l'étendue artistique qu'il a. Et j'ai découvert il y a pas plus d'une semaine en allant voir cette exposition que non seulement il est, le chanteur qu'on connaît, l'acteur qu'on connaît, dans le Grand Bain, etc., mais aussi il peint, il sculpte.
Super dessinateur.
C'est un truc de malade. C'est-à-dire que j'ai vu l'exposition qui lui est consacrée au bon marché. Déjà, rien qu'en rentrant, vous avez cette espèce d'énorme bonhomme rose monstrueux qui plane au-dessus du bon marché, qui est une sorte de malabar, comme
poil.
Ça, déstructuré à poil, bien sûr. Toujours dans le plus bel appareil, comme quand il chantait « Laissez-moi manger ma banane ». Et il est incroyable. Et il m'a fait ce cadeau magnifique, en 2013, de venir enregistrer un duo avec moi sur cet album « Décalage immédiat » qui a été un four total.
Total.
Mais dont je suis extrêmement fier, parce que je le fais découvrir aujourd'hui à ma petite fille de 10 ans et qu'elle rigole.
Autre duo dingue, la Carioca.
C'est long cette intro là. Marc, tu peux envoyer tes messages.
C'est vrai, tu peux texter, tu peux SMSer.
Textoter.
Ouais. Bon. Ou alors juste aller pisser.
Ah, ta gueule, je vais chanter. Sais-tu danser la Carioca? C'est pas un foxtrot ou une polka. C'est vraiment pas très compliqué pour la comprendre. Suis bien, me pas.
Ce n'est pas un tango ou un cha-cha,
cha-cha-cha.
Encore moins une bossa nova.
Nova va.
Quand t'as goûté à cette danse-là, tu ne peux plus faire que ça.
Ya ya ya.
La Carioca, donc, d'un côté Helmut Fritz et de l'autre Francis Lalanne, avec une rencontre là hallucinante que vous racontez aussi. On est entre le pathétique, le burlesque et la terreur la plus totale.
Tout à fait. Mais je pense, je vais le dire très sincèrement, je pense que Francis Lalanne est un génie qui vient d'une autre planète. Et quand je le rencontre, je suis pas prêt, moi, à cette rencontre, parce que je suis peut-être un peu trop fermé au personnage. Mais effectivement, on se rencontre en studio pour la Carioca que je lui ai proposée. Et très vite, il me dit... Et c'est là que ça passe du rire au côté touchant. Il me dit « Je peux pas chanter avec toi cette chanson parce qu'elle est chantée par les nuls et que les nuls, ils ont fait du mal à mon papa. » Et je lui dis « Mais comment ça ?» Et il me dit « Oui, mais à l'époque, il était à l'hôpital, il était mal en point. » Et moi, j'étais un peu la tête de turc des nuls dans leur émission qu'ils faisaient. Et mon père, il le prenait extrêmement mal. Et là, il me raconte ça en faisant le Francis Lalanne qu'on connaît, c'est-à-dire très dramaturge, très démonstratif, très exalté. Il hurle dans le studio, il postillonne. Et
mais
il
on
dit,
comprend, parce que véritablement, son père risquait la mort chaque fois que la caricature apparaissait.
Absolument. Et sur le coup, nous, on se dit, mais c'est pas possible, il nous fait une blague et on veut se marrer. Mais en fait, lui, il se marre pas du tout. Et donc, je me dis, mais cette séance va être un enfer. Et ça a pris 2 heures pour qu'il redescende et qu'il se mette dans un état prêt à enregistrer un morceau et qu'il oublie son histoire avec cette chanson. Mais sur le coup, il y a eu de la terreur, ouais, vraiment.
Quand est-ce que vous avez compris, Eric Greff, que vous ne seriez avec Helmut Fritz que l'homme d'un seul titre?
Alors, jamais, parce que c'est pas le cas. Ça, c'est mon ego qui parle, attention.
Non, mais avec Helmut Fritz.
Avec Helmut.
Oui, je parle pas de vous.
Non, mais beaucoup trop tard. Beaucoup trop tard. J'aurais dû le comprendre tout de suite. C'est-à-dire que si j'avais eu la force d'un verbe très très franc autour de moi à ce moment-là, qui m'avait dit, tu sais, t'es un one shot d'été parce que t'as fait danser les gens pendant 2 mois et il faut que t'abandonnes cette marionnette parce que les blagues les plus courtes sont les meilleures, j'aurais peut-être entendu le message. Sauf que j'ai voulu pousser le truc beaucoup trop loin mais parce que j'avais envie que la notoriété de Fritz déteigne sur la notoriété d'Eric et me permette d'accéder à ma musique de cœur. Mais je l'ai compris beaucoup trop tard.
Et la musique de cœur, c'est celle-ci.
Il est temps que le temps nous laisse. Il est temps d'oublier nos peurs. Il est temps que l'on disparaisse. Il est temps pour nos SOS.
Ça, c'est quand Eric Greff signe sous son propre nom.
Ça, c'est en 2011, ouais. C'est juste 2 ans après Helmut et c'est beaucoup trop tôt pour expliquer aux gens qu'il va y avoir une transition vers l'univers de la pop, une reconversion en fait. Et là aussi, je me prends un joli mur parce que ça marche pas du tout.
Et le 15 avril prochain, voici ce que l'on va pouvoir entendre le 15 avril prochain.
Adieu, la fée aux
ailes de soie, je ne t'écris plus, pardonne-moi. Hier le désir m'a quitté, mon âme reprend tout de zéro, laissant le flou et le cassé. L'encre coulera à nouveau, mes pupilles semblent desséchées. Mon cœur est un cirque imparfait où personne n'applaudit jamais, car les clowns semblent fatigués. Fatigués. C'est n'importe quoi.
Donc, je savais pas que vous l'aviez, c'est
bien
génial.
Sûr, on l'a.
Merci.
Bien
il y a, sûr. 10 ans après, finalement, il y a une filiation quand même au niveau vocal et dans les textes, mais par contre, c'est vrai que l'arrangement a changé. Ouais.
Dans les textes, en effet, il y a quelque chose qui se poursuit. Pendant un moment, d'ailleurs, vous avez travaillé pour les autres.
Ouais.
Vous avez fait partie de Camp Writing.
Tout à fait.
Avec Rose, avec Teamed Up, hein, c'est ce que l'on peut lire dans ce livre. Vous avez aimé cette période de travailler pour les autres ?
J'ai aimé au début, parce que j'ai trouvé ça... J'étais honoré de pouvoir rencontrer d'autres artistes et de mettre ma modeste plume au service de leur univers et d'essayer de les aider à incarner quelque chose et à amener des histoires quand ils n'étaient pas seuls auteurs de leur propre chanson. Et puis ensuite, ça m'a rendu assez maussade parce que c'est devenu une routine qui était trop éloignée de la scène et de l'existence en tant que chanteur ou entertainer en ce qui me concerne. Et donc ça a pas été dans le fulfillment, on va dire, comme une carrière solo, clairement.
Qu'est-ce que ça vous inspire, ce parcours, Will et Paul? De pirogue, Paul.
Atypique.
Ouais. Ouais, atypique.
Très intéressant, oui.
Éric Grey, vous restez avec nous. On a rendez-vous donc avec Pierrot juste après Miel de montagne. L'album est attendu pour le 6 mai, mais déjà un titre dans la playlist de France Inter. Tout va trop vite, c'est le titre.
Sur France Inter.
Éric Greff, Will et Paul de Pirogue, trois invités côté club ce soir. Pirogue, duo de pop planante. Vous signez votre premier EP avec ce nom que vous êtes choisi, Pirogue. Comment ce nom vous est tombé dessus? Vous me direz, on vient d'écouter Miel de montagne, donc on peut bien s'appeler Pirogue. Mais vous étiez assis autour d'une table, je sais pas, vous étiez bourré, vous cherchiez un nom.
On est passé un peu par un exercice de battle. chacun donnait un nom, puis un autre. Et finalement, c'est mon grand frère qui m'a soufflé ce nom. On en a un petit peu discuté, et puis on se l'est approprié pendant quelques semaines. Et finalement, plus le temps passe, plus on trouve que ça nous va, ça nous correspond bien.
Ça vous va, Paul ?
Ça me rend tout à fait
très bien.
Non, mais il y a un côté un peu, il y a un côté un peu poétique, un peu exotique, un peu.
Mot inspire le voyage,
l'aventure.
Ouais, c'est bien ce qui se raconte d'ailleurs dans ce EP de City, tous traversés par l'idée de départ. On va y revenir, mais d'abord quelques mots pour vous découvrir. Vous êtes rencontrés lors d'une soirée. Will, donc, vous passiez du son. Paul, vous avez branché la guitare. C'était quel type de son ? C'était déjà cette dream pop planante ?
Non, pas forcément. En fait, c'est vrai que moi, j'ai plutôt tendance à passer des trucs qui groovent généralement. Alors, je crois que je me demande si c'était pas un CD d'un DJ qui s'appelait Saint-Germain. C'est un morceau parmi d'autres que j'avais passé ce soir-là. Mais avant cette séquence-là, je crois qu'on avait essayé de nous présenter, et je pense qu'on est tous les deux peut-être un tout petit peu timide, rêveur, et on s'était pas trop parlé à ce moment-là, et la discussion s'est fait après par les instruments. En tout cas, moi, je passais de la musique. Paul, il y avait un ampli, une guitare. il s'est branché, et là, moi, j'ai pris une grosse claque. Et c'était la première vraie rencontre, on va dire.
Pour en savoir un peu plus, petit aperçu des chansons que vous aimez par-dessus tout, chacun va retrouver la sienne pour nous raconter le lien qu'il entretient avec. Extrait.
Competition in other places, but the horns, they blowing that sound way on down south.
Dire Straits, c'est pour qui ?
Alors Dire Straits, c'est pour moi.
Donc, c'est pour Will.
Moi, rien que de l'écouter, ça me donne envie de partir à la montagne, et ça me rappelle. Moi, j'habitais à Toulouse, donc les Pyrénées, pas très loin. Ça me rappelle la route vers la montagne.
C'est ce qu'on écoutait dans la voiture ?
C'est ce qu'on écoutait dans la voiture, et je l'écoute aujourd'hui. Pour moi, ça n'a pas pris une ride. Ça me fait un truc extrêmement particulier. Solo, j'en parle même pas de ce solo, il est juste mythique. Et un groupe énorme pour moi.
Deuxième titre. Denis Hathaway, ça serait pour le jazzman.
Ouais, j'adore toute la soul des années 60, 70. J'adore les versions live, en fait, parce que c'est vraiment des groupes de live. Aussi mon père qui m'a vachement fait écouter toute cette musique, Johnny Guitar Watson aussi, vachement. Et donc, pour moi, ça glisse. Enfin, c'est des gens super talentueux, des superbes voix, très bon pianiste. Il est mort assez jeune, son enfant, comment on dit ça ?
Ça quoi, hein ?
On peut le dire en anglais.
Oui.
His daughter.
Sa fille.
Voilà, pardon. Qui, elle aussi, est chanteuse et qui est très bonne chanteuse aujourd'hui. Donc, voilà. Donc, c'est un très beau titre.
On passe maintenant à votre propre son avec ce titre. Contre toi, quelle est l'histoire de ce morceau ? Will ? Paul ?
Alors l'histoire est très simple. C'est un week-end assez fabuleux avec au milieu une assez grosse soirée à Lisbonne, et après c'est une histoire un peu de une sorte de flirt un peu doux avec quelqu'un sous un ciel, on va dire, multicolore, alors qu'on est en pleine nuit.
Je
Contre toi, extrait de Pirogue, premier EP de Pirogue, le duo. À ce sujet d'ailleurs, quelle est la répartition? Qui écrit?
On va dire que je fais souvent le premier jet avec, de manière très simple, guitare, acoustique, voix. Et ensuite, je passe la main à Paul.
Paul.
On va dire que ça, c'est dans les grandes lignes, c'est un peu ça.
Qui compose?
En fait, je compose, on va dire, la première base, la mélodie,
ouais. les noyaux, en fait. Et après, moi, je prends sa guitare et sa voix et je fais les arrangements autour, un peu le synthé, batterie, etc., guitare.
Et qui chante?
Ouais, c'est Will William qui chante. Et ensuite, il y a quand même des ping-pong qu'on se retrouve et on peaufine ensemble les morceaux.
Voilà.
Paul?
Ouais, tout à fait.
C'est votre rôle, donc.
Ah, exactement.
Vous aviez déjà un projet commun avant qui s'appelait Timing. Ça voulait dire que les chansons étaient en anglais à l'époque?
Voilà.
Ah
en
ouais?
En fait, c'est un projet où les chansons étaient effectivement en anglais. Et ça a été un peu justement le déclencheur sur ce projet Pirogue. Ça a été justement de passer sur une écriture en français où ça a extrêmement fluidifié en fait et simplifié le processus. À la fois d'écriture des textes et d'enregistrement, parce que voilà,
pourquoi
le chant en anglais, parce que le chant en anglais était pas toujours
ah d'accord, c'est ça,
le chant anglais, moi ça me gênait un petit peu au niveau de l'accent et tout ça, enfin
oui,
voilà, mais les personnes anglophones en tout cas pourraient l'entendre et voilà, et je trouvais que aussi c'était pas vraiment eux en fait, William et son frère aussi qui étaient dans ce projet
groupe, ouais.
Et en fait, il y avait trois influences différentes et à la fin, ça menait à pas grand chose. Voilà. Donc, on a fait un EP un peu, mais on n'était pas très, très fiers. Et après, on a commencé à écrire en français, en tout cas, tout d'abord.
Et ça a libéré quelque chose.
Exactement. Beaucoup plus fluide. Ouais.
Voilà. Comment vous écoutez cette musique, vous?
C'est hyper beau.
Eric Greff.
Ouais, j'adore. Moi, ça, c'est plein de choses que j'aime. Ouais, si je dois faire l'exercice le plus injuste au monde et d'essayer de faire appel à des références, parce que les artistes détestent ça en général, mais moi je verrais bien Pirogue dans un espèce de triangle entre Hills, Phoenix et l'Impératrice. Enfin, il y a tout ça en fait comme appel quand j'écoute leur son, et je trouve ça extrêmement doux, extrêmement chic, et je vais écouter tout l'EP direct.
Ça vous va, Paul?
Ça me va tout à fait, ouais, super.
Merci,
oui,
Paul,
aussi.
Merci. J'ai pas dit trop de conneries, cool. Ça va.
Retour à ce EP avec le titre final, Le goût du vrai.
As-tu perdu le goût du vrai? Le sentiment d'exister? Le temps d'une esquisse? Les âmes se
J'ai beaucoup aimé ce titre avec cette question inaugurale. As-tu perdu le goût du vrai? Cette question qui ouvre le titre. Ça arrive comment, cette question? Elle vous concerne?
Oui, elle nous concerne. Et en fait, comme tu le disais, en fait, c'est le dernier titre de l'EP. Ça a été un EP en fait où on a pas mal voyagé. On est parti en vacances. On est parti sur la plage. On est parti. Et en fait, à la fin, on peut se poser cette question de est-ce que là, on est vraiment parti en fait? Et ou est-ce que ce voyage n'était pas tout simplement un voyage imaginaire, un voyage intérieur? Et au-delà de ça, voilà, bah, y a différents peut-être niveaux de lecture derrière ça, mais c'est aussi, je pense que c'est une question qu'il faudrait peut-être qu'on se pose un peu plus souvent dans nos vies de tous les jours. Est-ce qu'on ne s'éloigne pas du vrai, des choses simples? Et c'est de ça aussi qu'on parle dont on parle dans les autres morceaux, c'est des plaisirs. Plaisirs simples, des
très
plaisirs
simple,
gratuits.
Ouais. De voyage.
Ouais. De voyage ou même de rêverie, de méditation, de contemplation, de sport, de glisse. Voilà, c'est ces choses-là qu'on aborde.
Vous faites du skate?
Alors, c'est Will qui surfe. Moi, j'ai surfé deux fois dans ma vie, c'était super dur.
Vous avez réussi à monter sur la planche?
Ouais, genre peut-être deux fois.
Vous êtes assez fort quand même.
Merci beaucoup.
Ouais. Moi, j'étais accroupi comme un chien, c'était horrible.
C'est très physique, ouais, mais il faut le faire tous les jours, sinon c'est très dur.
Côté club.
Sur France Inter.
La saison des festivals est lancée, Marion Guilbault rentre dans les coulisses des Émancipés à Vannes grâce au studio Sac à dos de Bénédicte Schmitt.
Bonjour.
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 Ça va,
bonjour.
Depuis lundi, la ville de Vannes accueille le festival Les Émancipés, une manifestation qui depuis 5 ans aime métisser lecture littéraire et musicale, comme celle de Raphaël Lanader et Cécile Coulon, des concerts, Miossec, Sandra Nkake, des rencontres. Alors l'idée n'est pas totalement neuve, Laurent, d'autres lieux, d'autres événements s'ingénient à marier texte et musique. Il y a la Maison de la Poésie, les Correspondances de Manosque, pour ne citer que. Les autres me maudiront ou me pardonneront. Mais si je vous parle des Émancipés, c'est parce que cette année, une soirée sera consacrée à cette nouvelle scène musicale féminine dont nous nous faisons l'écho ici régulièrement à Côté Club. Une soirée intitulée Belle Jeunesse, titre merveilleux et prometteur.
Oh, moi le sais-tu que tout le temps qui passe ne se rattrape guère, que tout le temps perdu
Et parmi ces promesses, on peut reconnaître les voix de Laura Cahen, Clara Isée, Yoa et PR2B en pleine communion sur Barbara. Parce qu'avant cette soirée Belle Jeunesse, il y a eu début mars à Paris, comme une répétition lors d'une tomboy party. C'est le nom de la structure à l'origine du projet. Les quatre artistes s'étaient rassemblées, elles se sont chauffées et Bénédicte Schmitt était là avec son studio sac à dos. Elle a tout enregistré ou presque et on va tout diffuser ou presque.
Alors Ghislaine, va nous dire quelques mots sur ce magnifique festival Les Émancipés.
Donc voilà. Les Émancipés, c'est un festival qui marie entre guillemets littérature et chanson.
Et les terrines de poisson.
Et les terrines de poisson et les franges de Marie-France. Voilà. C'est-à-dire c'est un festival en fait où les artistes viennent faire des pas de côté.
Ghislaine Goubi, la directrice inspirée des Émancipés, qui a confié à Mélissa Fulpin cette année la programmation de cette soirée Belle Jeunesse, où chaque artiste assurera un concert de 30 minutes. Et pendant les changements de plateau, le public sera convié à une pause rencontre avec l'artiste sortante. Une pause rencontre animée par l'incontournable Michel Troadec de West France. Mais revenons dans le studio sac à dos de Bénédicte Schmitt, la Tomboy Party, car j'entends Laura Cahen qui accorde sa guitare. Laura Cahen, une des quatre artistes qui sera présente, déjà bien avancée, elle, sur le chemin de la reconnaissance avec son dernier album Une fille, très défendue sur cette antenne. Laura Cahen qui jouait assise, là, sur un canapé, devant une trentaine de personnes et Bénédicte Schmitt qui avait placé ses micros un peu partout dans la pièce pour capter cet apéritif acoustique. Un canapé qui a eu aussi les faveurs de Clara Isée.
J'ai accueilli un ami qui m'a pris dans ses bras et m'a murmuré tout bas. Bleu azur qui lui vient toujours en ami, te rappeler tout pas que la joie est toujours à deux pas. Il m'a dit prends patience, mon ami prends patience, vers un nouveau rivage, ton cœur est emporté, l'ancien territoire t'éclaire de ses fins, t'éclaire de ses fins.
Le monde s'est dédoublé. C'est avec cette chanson qu'on a craqué pour la voix, pour l'écriture, pour la sensibilité de Clara Isée. Dans Côté Club, elle a également publié Mise à Feu, un premier roman très réussi. Et on attend avec impatience son nouvel album signé chez Tôt ou Tard, enregistré avec la complicité de Sage. Et ça, c'est plus qu'une promesse. Alors voilà, c'était une mise en bouche, un apéritif de cette soirée Belle Promesse qui aura lieu le 27 mars à Vannes. Clara Isée et Laura Cahen seront rejointes par la jeune Yoa et PR2B, très soutenues également par ici. Quatre filles dans le vent de la Bretagne, émancipées, joyeuses.
Et Béné, elle enregistre tout, là.
Printemps, tu verras, je serai de retour. Le printemps, c'est joli pour ne parler d'amour. Nous irons voir ensemble les jardins refleuris et déambulerons dans les rues de Paris.
Et vive Barbara, soirée Belle Jeunesse aura lieu le 27 mars prochain dans le cadre du festival donc Les Émancipés et l'intégralité du studio Sac à dos consacré à la Tomboy Party est à retrouver sur le site de Bénédicte Schmitt. On se quitte avec Loni, un titre de circonstance comme La fin du monde, extrait de son premier album Ex Voto. Vous avez des funèbres sur France Inter ?
L'écume.
Et bien voilà, côté club, c'est fini pour aujourd'hui. Eric Greff, merci à vous.
Merci mille fois.
Rockstar Sinon Rien, apparu aux éditions Anne Carrère. Et le titre, c'est N'importe quoi, sortira le 15 avril prochain. Will et Paul de Pirogue, merci à vous deux.
Énorme merci.
Merci beaucoup.
Le premier EP porte ce nom, Pirogue, sorti le 15 avril avec déjà deux singles disponibles, Contre toi et L'Extase. Ça, c'était pour aujourd'hui. Mais demain.
Donne-moi une pause, donne-moi une pause, mais c'est. Donne-moi une pause, donne-moi une pause, donne-moi une pause, mais c'est. Donne-moi une.
Superpose sera notre invité demain avec à ses côtés le duo Sofa, une émission piano-électro. Côté club, c'est l'équipe du soir qui vous tient bien par les deux oreilles. Stéphane Le Guenec à la réalisation, à la technique Arnaud Caillé, Marion Guilbault, Alexis Goyer, Virginie Rosic pour la programmation et Valentine Chedebois qui veille aux playlists. Côté club, on ferme, que la musique soit avec vous.
Oh, c'était formidable.
C'était le souffle de l'âme qui posait des mots sur vaguement des notes.
Côté.
Oui.
Club.
Bye, bye.